Bonjour Pascal Perrineau.
Bonjour.
Politologue, professeur émérite des universités à Sciences Po et ancien directeur du centre de recherche politique de Sciences Po, le CEVIPOF. Et vous venez de signer ce dernier livre, Le populisme, paru aux éditions Que sais-je, aux presses universitaires de France. Le populisme en politique, vous en parlez au singulier, alors qu'il y a peut-être autant de définitions qu'il y a d'observateurs de sciences politiques et sociales, mais le plus petit dénominateur commun quand on parle de populisme, ce serait quoi? Ce serait le peuple face aux élites, le nous face à eux?
Bien sûr. C'est, si vous voulez, vous avez raison d'insister sur le fait qu'il y a plusieurs populismes, largement en fonction des idéologies auxquelles ce style politique qu'est le populisme se rattache. On peut avoir des populismes de gauche, des populismes de droite, des populismes d'extrême droite, des populismes du centre. Bon, il y a véritablement une palette extrêmement diversifiée. Mais c'est vrai que tous ces populismes ont quelques points communs. Et le point commun, en effet, c'est une lecture particulière de la société. On considère que la société est divisée en deux bloc assez simple, un bloc extrêmement important qui est le peuple. Alors ensuite, il y a différentes définitions, bien sûr, du peuple face à eux, les gens d'en haut, les élites, etc. Et puis, indépendamment de ce diagnostic sur la société, il y a un moyen pour en sortir. Il faut trouver un homme, une femme ayant un particulier charisme qui dit tout haut ce que le peuple dit
enfin,
tout bas.
C'est quand même assez simpliste.
Ah, c'est extrêmement simpliste.
Et il y a aussi une manière de disqualifier l'autre
qu'on
ne trouve que chez les populistes.
Bien sûr. Il y a une manière, en effet, de disqualifier ce monde des élites. Et puis, selon qu'on est dans des populismes de la droite ou de la gauche, il y a tout de même une grande différence quant à la définition du peuple. Pour tous ces populismes qui viennent de la droite et parfois de l'extrême droite, il y a une conception du populisme où le peuple est défini par son identité ethnique ou culturelle. Hein, et avec le lot de xénophobie, de racisme qui peut aller éventuellement avec.
Un national-populisme.
Voilà, le national-populisme, comme le dit le philosophe Pierre-André Taguieff. Et puis, de l'autre côté, vous avez des populismes qui sont définis beaucoup plus par l'origine sociale. C'est les petites gens, les gens de peu, les gens du peuple, ce qu'on a l'habitude de dire, les catégories populaires. Et là, bien sûr, il y a, vous voyez, en termes sociologiques, deux regards très différents sur le peuple en tant que tel.
Le populisme, ce n'est pas si nouveau que ça. Vous rappelez dans votre livre que ça date en Russie de la deuxième moitié du 19e siècle. En France, ça vient il y a une quarantaine d'années avec la globalisation.
Oui, alors ça, si vous voulez, le populisme était là. Je crois que depuis le 19e siècle, de manière latente, il y a dans la démocratie très souvent une déception par rapport à la démocratie représentative, qui est celle que nous connaissons. On se dit, mais cette démocratie ne représente pas suffisamment le peuple. Et à partir de ce manque, hein, il y a toujours eu un courant populiste qui prétend qu'on pourrait mieux représenter le peuple, trouver un leader qui parle directement au nom du peuple. Et dès la fin du 19e, quand vous regardez par exemple l'expérience Boulanger en France, ce général qui puisait d'ailleurs ses soutiens à droite et à gauche à l'époque, était au fond le prodrome hein, d'un populisme à la française. Et puis ensuite vous avez eu bien sûr après la guerre le mouvement Poujade aussi qui était très marqué par le populisme. Mais par la dénonciation des élites tous azimuts.
Les petits commerçants contre les...
Et puis avec la crise, en effet, et la globalisation, et toutes les interrogations identitaires, économiques, sociales que peut poser la globalisation, le populisme a fait un retour, et maintenant il est installé au cœur du système.
Et le Front National, quand
bien
même,
sûr.
Qui lui a donné
bien
un
sûr.
Sacré coup de pouce.
Le Front National, et même, si vous voulez, quand vous regardez la renaissance phénoménale du populisme, parce qu'aujourd'hui, quel que soit le pays, le continent, le populisme est là, et parfois il est souvent au pouvoir, et même maintenant dans de très grands pays, eh bien vous apercevez que, au fond, ceux qui ont annoncé sur la scène européenne ce retour du populisme, c'est la France avec le Front National et l'Autriche avec le FPE.
En France, le Front National est désormais Rassemblement National. C'est lui qui a remplacé le Parti communiste dans sa vocation tribunicienne. De faire entendre au pouvoir les revendications du peuple.
Oui, si vous voulez, dans une démocratie, c'est tout de même très utile, et depuis la nuit des temps, que les revendications, les inquiétudes, les questions que se posent les petites gens, comme on dit, les gens de peu, les gens du peuple, la rue, que tout ça puisse remonter dans le système politique.
Ça repose sur un malaise, écrivez-vous, par exemple, le malaise de la démocratie représentative.
Oui.
c'est-à-dire ?
Bien sûr. Si vous voulez, la démocratie représentative, c'est au moment des élections, d'élire des représentants qui sont censés nous représenter dans tous les sens du terme, politiquement, sociologiquement, etc. Et forcément, il y a toujours une déception par rapport à cette démocratie représentative. D'abord parce que la démocratie représentative n'est pas une démocratie continue. Hein, c'est tous les 5 ans, par exemple, pour l'élection présidentielle. On remet les compteurs à zéro, puis on cherche si un nouveau président, un président est possible. Et donc, il y a toujours une déception démocratique. Pierre Rosanvallon, l'historien du suffrage universel, l'avait très bien montré. Et donc, par rapport et face à la démocratie représentative, il y a toujours eu une sorte de contre-démocratie qui prétendait qu'avec la démocratie directe, avec le référendum, avec la participation permanente des citoyens, avec l'expression jour et nuit presque de la volonté populaire, on pouvait mieux faire.
Mais ça veut dire que le populisme apparaît comme une solution, finalement.
Bien sûr, le populisme apparaît comme une solution. C'est une question permanente qui est posée à la démocratie représentative, au fond, et qui pose la question de la place du peuple et des catégories populaires dans la démocratie.
C'est ce que dit Zemmour, redonnez-moi son nom, je suis désolé, le prénom de Zemmour.
Éric Zemmour,
c'est le mien en plus. C'est ce que dit Éric Zemmour lorsqu'il dit que le populisme, c'est finalement le cri du peuple contre les élites qui gouvernent. Il ne dit pas autre chose.
Oui, alors ça peut, en effet, le populisme peut être le vecteur de ce cri du peuple ou d'un certain peuple, mais d'autres formations politiques. Par exemple, dans les années 50, le Parti communiste jouait à merveille ce rôle. Hein. C'était, comme on disait, le tribun de la paix. Hein. Georges Lavaux, qui était un de mes maîtres en sciences politiques, parlait de la fonction tribunicienne. Hein. C'est-à-dire celui qui faisait remonter les revendications de
aux
la plèbe
du pouvoir.
Voilà, vers le Sénat à l'époque de la Rome antique, et bien là, vers le système politique.
D'ailleurs, d'un point de vue idéologique, le populisme, c'est un bon marqueur pour jauger du déclin et de la bonne forme d'une démocratie.
Ah oui, oui, oui. Je crois, et d'ailleurs je termine dans mon ouvrage là-dessus, ce que pose avant tout comme question au système le populisme, c'est la question démocratique.
Et la faiblesse démocratique.
Bien
et
sûr.
Son avenir.
L'hypothèse démocratique est une hypothèse beaucoup plus faible qu'on veut bien le croire. Vous savez, on se dit, mais la démocratie, elle est de toute éternité. Tu parles. Pas du tout. On peut très bien connaître le retour de régimes autoritaires, on le voit tous les jours, j'allais dire même sur le continent européen. Et puis maintenant, vous avez dans nos opinions publiques, dans nos électorats, une partie de cette opinion publique qui rêve de régime autoritaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à peu près, un Français sur trois nous dit qu'au fond, un homme fort qui se passerait du Parlement et des élections, excusez-moi du peu, ce serait une bonne solution pour la France.
Et qui se passerait peut-être aussi des médias.
Voilà,
tous les corps intermédiaires.
Oui, tous les corps intermédiaires. Parce que vous avez raison d'insister là-dessus. Dans le populisme, il y a à la fois un malaise et une haine des corps intermédiaires qui sont censés toujours trahir la volonté du peuple. Hein. Et donc, on veut, au fond, une expression
direct.
Politique en direct. Voilà.
Ce que vous appelez le télépopulisme, voilà. Berlusconi n'a pas fait autre chose.
Ah ben, bien sûr.
Hein. En Italie.
Et regardez la présidence Trump, qui à cet égard est tout à fait emblématique d'un populisme moderne.
Ouais. Alors que le mot populisme a longtemps été un repoussoir, certains aujourd'hui s'en revendiquent. J'évoquais à l'instant l'éditorialiste Éric Zemmour ou encore le philosophe Michel Onfray. Avec à chaque fois, c'est quoi? C'est un goût pour la polémique, quitte à tordre la réalité. Ça marche comme ça, le populisme?
Oui, si vous voulez, comme tous les notions ou les concepts qui ont du succès, peu à peu, ils deviennent l'objet, ils sont utilisés dans le combat politique. Hein. Le populisme, comme vous l'avez dit, ça a une origine historique bien précise. Dans les sciences sociales, ça a une définition bien précise, mais c'est tombé dans le débat public, comme libéralisme, capitalisme, socialisme. Bon, hein, c'est tombé dans le débat public, donc les gens s'en sont emparés et en font un instrument polémique. Et ce qui fait le succès de cette notion, c'est que dans populisme, il y a populisme, il y a le peuple.
Il y a le peuple.
Voilà.
Hein.
Mais c'est devenu maintenant un leadership, finalement, le populisme. Alors qu'avant, c'était censé lutter contre les leaderships.
Tout à fait. Et c'est le problème, d'ailleurs, quand les populistes sont intégrés au gouvernement. Parce que là, les choses sérieuses commencent, j'allais dire. Hein. Il faut avoir des politiques économiques, des politiques budgétaires. Il suffit pas de dire « il y a qu'à faudrait hein. ». On est confronté au principe de réalité. Le principe de plaisir doit céder devant le principe de réalité. Et parfois, il y a de fortes déceptions. Quand le FPE, par exemple, ce parti populiste autrichien qui avait été fondé par Jörg Haider, est arrivé au pouvoir à l'époque avec les conservateurs, très vite, il a déçu hein, et il a fondu électoralement. Parce que ça n'était plus vécu par le peuple ou par les catégories populaires comme étant un moyen de protestation. C'était devenu des gestionnaires comme les autres et ils ont déçu.
Est-ce une menace qui pourrait toucher Marine Le Pen qui s'est toujours exprimée en contre-pouvoir? Imagine-t-on une Marine Le Pen, j'allais dire, compétente au regard du débat second tour face à Emmanuel Macron, dont on avait parfois réalisé qu'elle était légère, si ce n'est incompétente sur certains sujets.
Oui, bien sûr, on voit bien que, au fond, le Front National, qui n'était rien dans les années 70, qui est aujourd'hui la première force politique en France, il a connu ce destin parce que dans une période de crise cumulée, économique, sociale, maintenant sanitaire, il a été le vecteur des angoisses, des inquiétudes. J'ai l'habitude de dire quand la France va mal, le Rassemblement National va bien. Hein. Et donc ça, voilà, ça les a amenés aujourd'hui aux alentours de 25 à 30% des suffrages. C'est énorme.
Hein. Et
voilà.
Que penser...
Mais maintenant, pour passer au stade de 50% dans un second tour, de 50,1% dans un second tour, il faut acquérir une certaine notabilisation. Hein, il faut savoir arrondir les angles.
Dédiaboliser.
Voilà, dédiaboliser. Il faut trouver des partenaires. Hein, avec les partenaires, vous ne vous faites pas simplement plaisir. Vous êtes obligé de rentrer dans une culture du compromis. Et ça... Ça n'est pas la caractéristique principale des populistes.
Pascal Pirino, je rappelle que vous avez été l'un des premiers observateurs politiques à scruter les origines, avec Renaud Dely et d'autres, les origines du Front National et de son avenir. Qu'avez-vous pensé de l'émission sur France 2 lorsque Marine Le Pen a semblé, pour reprendre le mot de Gérald Darmanin qui était son contradicteur, molle? C'est ce que vous venez de dire, la mollesse de son discours pour mieux séduire aujourd'hui au-delà de ses troupes acquises?
Oui, c'est-à-dire que le populisme, ce sont aussi des thèmes, des thématiques.
L'identité.
Hein. Et voilà. Et sans gagner, les populistes peuvent gagner dans les têtes, parfois. Hein. Parce qu'ils deviennent des chefs d'orchestre clandestins du débat politique, de l'agenda politique, comme on dit. C'est-à-dire, ils mettent à l'agenda politique des thèmes auxquels d'autres forces politiques n'avaient pas pensé. Et on le voit bien, aujourd'hui, le retour en force de thèmes comme celui de l'identité nationale, celui de l'immigration,
l'islamisme
voilà,
radical,
celui de l'insécurité, etc., sont des thèmes que, oui, les forces populistes ont mis à l'agenda. Alors ensuite, une fois que ces thèmes sont mis à l'agenda, c'est aux forces populistes et aux autres, à trouver des réponses. Et là, quand on regarde en détail tout de même les réponses des partis, j'allais dire, de l'arc démocratique traditionnel et celles des forces populistes ne sont pas tout à fait les mêmes.
Est-ce qu'on peut dire que le Parti Socialiste a oublié de réfléchir?
Oui, certainement. Hein, c'est peut-être un peu sévère, mais on s'aperçoit que, si vous voulez, dans le socialisme démocratique, d'ailleurs en Europe, il y a quelque chose de troublant qui s'est passé quand vous regardez ça sur les 30 dernières années, c'est que ces forces socialistes ont perdu leur base populaire. Ils ont perdu largement le peuple, hein, au sens où on l'entend traditionnellement. Pourquoi ? Parce que, quelque part, ils n'ont pas su penser et apporter leur propre réponse à ce qui intéresse ces catégories populaires. Croyez-moi, pour avoir parcouru lors du Grand Débat National toute la France et avoir été en contact avec des gilets jaunes, avec vraiment cette France invisible dont on parle souvent, eh bien vous apercevez que ces gens-là sont intéressés par les thèmes de l'identité nationale. Qu'est-ce que c'est qu'être français aujourd'hui dans un monde global ? Et, hein, ça les intéresse. Ils sont intéressés, oui, par la question migratoire, parce que, voilà, ils sont confrontés dans leur quartier de vie, sur le marché du travail, à l'immigration. Ça ne veut pas dire qu'ils apportent des réponses d'exclusion. Hein. Ils sont intéressés par la sécurité. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas demander à ces catégories populaires, qui sont déjà dans une situation d'insécurité économique phénoménale, on va le voir dans les mois qui viennent, de supporter en plus de ça une insécurité dans leur quartier et dans leur lieu de vie. Et là, c'est vrai qu'une partie de la gauche n'a pas su se porter à la hauteur de ces angoisses tout à fait légitimes de ces catégories
populaires.
Mais là,
il y a une faute politique, un manque politique en tout cas. C'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Ah oui, il y a une grande erreur politique. Ça s'est traduit parce ce que certains politologues ont appelé la gentrification hein, de l'électorat de la gauche, l'embourgeoisement de l'électorat de la gauche. Regardez les grandes villes en France dirigées par la gauche aujourd'hui, ce sont de grandes villes bourgeoises, à commencer par Paris.
Et c'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on demande aux Français de se positionner sur une frise de l'extrême droite à l'extrême gauche, très peu de Français aujourd'hui se positionnent à gauche.
Ah oui, ça c'est tout à fait étonnant. Encore moins. Vous faites référence en effet à l'enquête de l'été dernier de l'IFOP. Jamais en France, il y a eu aussi peu de Français s'identifiant à la gauche. C'est un petit quart, vous vous rendez compte ? Donc c'est tout à fait impressionnant. Pourquoi ? C'est parce que les Français, et en particulier tous ces employés, ces ouvriers, ces petits cadres moyens qui avaient l'habitude, et même parfois l'habitude familiale presque, et culturelle, de voter pour la gauche, se posent la question, mais qu'est-ce que c'est qu'une réponse socialiste ou social-démocrate à la question « Quelle est la place de la France dans un monde global ? Qu'est-ce que c'est que le socialisme dans un monde ouvert aujourd'hui ?» Et comme il n'y a pas de réponse très convaincante, les gens vont voir ailleurs.
En interne au Parti Socialiste. Toujours à propos de cette idée du peuple contre les élites, au moment où l'on entend des critiques sur nos privations de liberté dans cette crise sociale, sanitaire et économique, je voudrais vous faire réagir sur les mots de Bruno Gassiot, qui est auteur, qui est scénariste et producteur de télé. Il dénonçait des méthodes fascistes du pouvoir en ce moment, des méthodes fascistes. Est-ce que ce supposé néofascisme a du sens aujourd'hui, selon vous ?
Non. Je vais vous dire, il faut faire attention. Les mots ont un sens. Le fascisme, ça a un sens. Alors qu'on dénonce des tendances autoritaires, etc., oui, pourquoi pas. Et d'ailleurs, même ceux qui mettent en place certaines politiques aujourd'hui se rendent bien compte. Voilà que l'état de droit peut être mis à mal. De là à passer à la notion de fascisme. Le fascisme, je rappellerai tout de même que ce sont des régimes politiques qui apparaissent dans les années 20 et les années 30, qui prônaient le monopartisme, un seul parti qui était opposé à la démocratie pluraliste, qui considérait qu'il y avait un chef charismatique qui représentait l'ensemble de la population, qui prônait des politiques qui étaient des politiques marquées par une profonde xénophobie et par un racisme d'État. Je veux dire, en France, on ne peut pas dire aujourd'hui, enfin c'est absurde.
C'était une conséquence des dérives autoritaires, selon ce...
Voilà. Mais si vous voulez, il y a eu des régimes autoritaires. Les régimes autoritaires ne sont pas tous des régimes fascistes.
Mais est-ce que la politique aujourd'hui n'est pas de plus en plus émotionnelle, au fond ?
Ah oui. Oui, oui, vous savez, j'ai un collègue américain qui a écrit un livre qui a été traduit d'ailleurs aux presses de Sciences Po, qui s'appelle « Le citoyen sentimental ». Et qui dit au fond la chose suivante, quand les citoyens n'ont plus de repères, si vous voulez, dans une société qui est devenue de plus en plus liquide, qui bouge énormément, ils n'ont plus de repères idéologiques parce que les grandes idéologies se sont largement effondrées, ils n'ont plus de repères sociaux parce que les classes sociales ont énormément bougé, se recompensent sans cesse, ils n'ont plus de repères religieux. Quand vous n'avez plus de repères comme ça, que vous êtes dans une société extrêmement labile, extrêmement liquide, ben oui, vous pouvez avoir le populisme peut devenir un véritable repère, et c'est ce qui se passe dans toutes nos sociétés et bien au-delà de nos sociétés, parce que n'oublions pas aujourd'hui que les États-Unis ont été dirigés pendant un mandat présidentiel
par un
grand leader populiste. Le Brésil, c'est pas n'importe quel pays,
Bolsonaro
est dirigé par Bolsonaro, l'Inde par Narendra Modi, Duterte aux Philippines, vous voyez, j'allais dire ce sont des poids lourds démographiques.
Des conséquences durables de leur passage ?
Oui, des conséquences durables. On le voit aux États-Unis, on le verra certainement en Inde. En Inde, on voit bien qu'il y a que toutes les conflits identitaires ne cessent de s'aviver et que Narendra Modi y est pour quelque chose. On voit bien comment maintenant en Europe, aujourd'hui, ici et maintenant, de multiples forces populistes participent à des coalitions gouvernementales ou sont au pouvoir. C'est le cas en Slovaquie, c'est le cas en Hongrie, c'est le cas en Bulgarie, ça a été le cas en Autriche, c'est le cas en Italie, c'est le cas pour un populisme de gauche, Podemos, qui est associé au Parti Socialiste Ouvrier Espagnol en Espagne. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui prospère.
On parle des populisme. Un dernier mot, peut-être sur le populisme également en économie. On va se référer aux années Reagan, où toute intervention public était considéré comme une injure et ça surfait sur l'opinion américaine.
Oui, oui, bien sûr. Le Reaganisme a laissé des traces extrêmement profondes sur l'opinion publique américaine. Alors, je consacre dans mon livre un petit passage parce que les Américains sont beaucoup intéressés aux effets économiques du populisme en Amérique latine. Et là, faut bien reconnaître que les populismes, qu'ils aient été de gauche ou de droite, sur le continent sud-américain, ça a été en général une catastrophe économique. Regardez ce qui se passe au Nicaragua, où là on a un populisme de gauche qui a transformé un des pays les plus riches de l'Amérique latine en pays pauvre. Maintenant, les citoyens nicaraguayens vont dans les pays environnants pour essayer de trouver de l'emploi et de sauver leur famille. Hein. Donc, très souvent, ce populisme, vous voyez, quand il est confronté, j'allais dire, aux choses sérieuses, est un édifice qui montre sa grande fragilité.
Vous résumez tout ça dans ces quelques pages aux éditions Que sais-je, Presse universitaire de France. Le populisme que vous signez, Pascal Perrino, merci d'être venu en parler ce matin sur France Inter, avec ces quelques dernières pages qui nous interrogent sur l'avenir de nos démocraties. Vous le rappeliez, ce n'est pas gravé dans le marbre. Merci Pascal Perrino et bonne journée.